en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois, je voudrais remercier Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, mes confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames, Messieurs, mes chers amis. Je voudrais tout d'abord indiquer, en vous remerciant de votre présence, Madame le député, il faut distinguer l'opinion publique et l'opinion individuelle, quoique les deux notions qui apparaissent en français au XIIIe siècle soient liées. Au XVIIe siècle, La Fontaine, dans la fable 15 du livre 7 intitulé « Les devineresses », observe à propos de l'opinion individuelle que nul n'échappe à ses entraînements. Il écrit « Je pourrais fonder ce prologue sur gens de tous états. Tout est prévention, cabale, entêtement, point ou peu de justice. C'est un torrent, qu'y faire ? Il faut qu'il ait son cours. Cela fut et sera toujours. » De son côté, Pascal, dans les pensées, note « L'empire fondé sur l'opinion et l'imagination règne quelque temps, et cet empire est doux et volontaire. Celui de la force règne toujours. Ainsi l'opinion est comme la reine du monde, mais la force en est le tyran. » Il existe donc des relations fondamentales et complexes entre opinion privée, opinion publique, que nous avons vu au cours des séances précédentes, imagination et force. Voltaire, dans « Sur l'Olympe », remarque « On nomme l'opinion la reine du monde. Elle l'est si bien que quand la raison vient la combattre, la raison est condamnée à la mort. » Dans le dictionnaire philosophique, il modifie ce constat désespéré. L'opinion gouverne le monde et les philosophes à la longue gouvernent l'opinion des hommes. Que veut dire à la longue ? Qui sont ces philosophes ? Rousseau, dans Le Contrat social, montre que la tâche est rude car, dit-il, je parle des mœurs, des coutumes et surtout de l'opinion, partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de tous les autres. Pour illustrer les difficultés qu'éprouve la raison à s'imposer face à l'opinion publique, je prendrai l'exemple des OGM, car notre Académie, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, y a été mêlée. En 2006, ce qui s'appelait le Conseil économique et social demanda à un groupe de travail comprenant des représentants de 13 académies un rapport sur l'opinion publique devant les organismes génétiquement modifiés. Marcel Boiteux, n'ayant pas souhaité représenter notre académie, on me désigna, je ne sais pourquoi. Étant très ignorant en biologie, je proposais à nos confrères d'assurer le secrétariat du groupe de travail, ce qui fut bien entendu accepté avec gratitude. Et donc j'ai lu la littérature disponible sur les organismes génétiquement modifiés et j'exprime ma vive gratitude à l'égard de mes confrères qui ont été d'une gentillesse sans égale. Alors il fallait bien sûr choisir une perspective. Notre groupe fut d'accord pour privilégier la perspective évolutionniste qui remonte au moins au XVIIIe siècle, mais dont la formulation précise se trouve dans la philosophie zoologique de Lamarck en 1809 et dans l'origine des espèces selon la sélection naturelle de Darwin, paru en 1859, mais que l'auteur a revu jusqu'en 1872. Selon cette perspective, tous les êtres vivants dérivent par filiation d'êtres vivants apparus sur Terre il y a un peu plus de 3 milliards et demi d'années, si bien que nous sommes tous des organismes génétiquement modifiés. Reste un problème, est-il légitime de corriger la nature ? Dans la seconde moitié du IVe siècle, deux théologiens chrétiens, issus d'une famille de médecins, Basile de Césarée, connu par les Latins sous le nom de Basile le Grand, et son frère Grégoire de Nice, le premier dans les homélies sur l'hexaéméron et le second dans la création de l'homme, soutinrent que l'on pouvait sans impiété modifier la nature car ses productions sauvages ne sont pas toutes adaptées aux besoins humains. Mais le premier penseur occidental moderne qui ait déclaré que l'on pouvait sans impiété corriger la nature est Nicolas Malebranche, 1838-1715, c'est-à-dire exact contemporain de Louis XIV, prêtre de l'oratoire et membre de l'Académie des sciences de Paris. Dieu, pour créer le monde, avait le choix, selon lui, entre deux stratégies, procéder par des mesures particulières très nombreuses qui eussent rendu la science impossible, ou procéder par des mesures générales ou lois de la nature qui sont intelligibles mais qui laissent subsister dans la nature des imperfections. Dieu ayant choisi la voie de la simplicité qui rend la science possible, il s'ensuit, écrit Malebranche dans le traité de morale publié en 1684 et revu par l'auteur jusqu'en 1707, que l'on corrige son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, sans blesser sa sagesse. Il y a donc des artifices légitimes. Tous le sont-ils ? Évidemment, non. Où passe donc la frontière entre artifice permis et artifice défendu ? Je me rappelle très bien l'audition du représentant de Greenpeace. Il savait que les médicaments actuels contre le diabète, le cancer et certaines maladies cardiaques sont des OGM. Il en acceptait l'usage médical. En revanche, il s'opposait résolument à l'emploi des biotechnologies, en particulier de la transgénèse, transfert de gènes entre variétés d'une même espèce ou d'une espèce à une autre, dans l'agriculture et l'élevage, car les organismes génétiquement modifiés risquaient, disait-il, d'infester la nature. L'opposition portait surtout, m'a-t-il semblé, sur le type d'agriculture. Ainsi, il refusait l'utilisation du riz doré pour protéger 500 000 enfants qui risquent chaque année de devenir aveugles, jugeant que pour lutter contre cette carence en vitamine A, il fallait donner directement cette vitamine aux enfants sans passer par l'alimentation. Pour tenir compte de ce refus, notre groupe prit le parti de distinguer entre les transformations évolutives naturelles de type darwinien et les transformations artificielles plus rapides que permettent les biotechnologies, en particulier les transferts de gènes entre variétés d'une même espèce ou entre espèces différentes. Notre confrère Pierre Feillet de l'Académie des technologies, quoique peu sensible aux outrances des anti-OGM, se fit le porte-parole de cette distinction. Nous rencontrâmes un autre problème que Malebranche avait déjà soulevé. N'avons-nous accès qu'aux lois de la nature, ou est-il possible, au moins par endroit, de pénétrer non seulement les lois, mais les causes des phénomènes ? Autrement dit, faut-il adopter le positivisme d'Auguste Comte, 1798-1857, ou risquer, comme Antoine Augustin Cournot, 1801-1877, le pari du réalisme. Le discours préliminaire de la théorie analytique de la chaleur de Joseph Fourier qu'Auguste Comte admirait, commence ainsi. Les causes principales ne nous sont point connues, mais elles sont assujetties à des lois simples et constantes que l'on peut découvrir par l'observation et dont l'étude est l'objet de la philosophie naturelle. Fourier et Auguste Comte optent donc pour le positivisme. Les causes des phénomènes nous échappent, c'est déjà beaucoup d'en saisir les lois. Antoine-Augustin Cournot, lui, estime par contre que nous pouvons non seulement saisir les lois de la nature, mais au moins par endroits, pénétrer les causes des phénomènes. En d'autres termes, il parie en faveur du réalisme. Il constate en effet que depuis la synthèse de l'urée par Wöhler en 1828, la chimie a introduit dans la nature des substances nombreuses. En 2008, le nombre de ces produits de synthèse en chimie devait dépasser 7 millions et que certains corps vivants obtenus par synthèse enrichissent la nature sans déclencher de rejet, à tel point que Cournot écrit en 1875 dans Rationalisme, Vitalisme, Rationalisme, de là une fabrique incessante de corps nouveaux que la nature n'avait pas pris la peine de créer. Cournot pense que si la nature laisse se marier ces corps nouveaux, chimiques ou biologiques ou vivants, aux corps qu'elle a spontanément créés, c'est qu'ils leur sont apparentés. Autrement dit, la biologie de synthèse est légitime. Le 14 octobre 2008, notre rapport fut remis au Conseil qui le refusa, même si à l'époque, les membres du groupe, ceux de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine et les spécialistes de biologie végétale, croyaient à l'innocuité de certains organismes génétiquement modifiés. Ma femme m'a dit que non seulement ça a été refusé, mais que l'archiviste du Conseil économique, social et environnemental a même perdu notre rapport. De fait, l'opinion publique est difficile à définir car elle repose à la fois sur des croyances scientifiques et sur des peurs. Or, les croyances scientifiques changent et les peurs n'ont que peu de lien avec la raison. C'est une chose que Montaigne a très bien vue dans le chapitre 11 du livre 3 des Essais intitulé « Des boiteux ». Il écrit « Il n'est rien à quoi communément les hommes soient plus tendus, c'est-à-dire plus enclins, qu'à donner voix, c'est-à-dire vision, vox, et via chemin à leurs opinions. Où le moyen ordinaire fait défaut, nous y ajoutons le commandement, la force, le fer et le feu. Ainsi, quand les hommes échouent à régler pacifiquement et sans violence leurs divergences d'opinion ou leurs conflits d'intérêts, ils recourent à la guerre. Quittons Montaigne et considérons la science moderne. Selon la théorie de l'évolution, tous les êtres vivants dérivent par filiation des premiers êtres vivants apparus sur Terre. Tous sont des organismes génétiquement modifiés et les modifications du génome se font naturellement sans intervention humaine. À partir du XIXe siècle, la chimie de synthèse réalise deux opérations nouvelles. Un, elle reproduit artificiellement des substances naturelles. La première en date, nous l'avons vu, c'est la synthèse de l'urée par Wöhler en 1828. Deux, elle crée des substances nouvelles qui n'existaient pas dans la nature. Quand certains de ces artefacts se révèlent nuisibles, en agriculture ou en médecine, on les interdit. Autrement, l'introduction dans la nature de certaines substances artificiellement créées est admise sans difficulté. À partir du milieu du XXe siècle, les biotechnologies, un, produisent par des moyens artificiels des substances naturelles, par exemple fabrication à des fins thérapeutiques de l'insuline par des levures génétiquement modifiées ou de l'hémoglobine humaine par le tabac génétiquement modifié. Deux, elle modifie artificiellement des organismes naturels pour leur conférer des propriétés dont ils étaient jusque-là dépourvus. Trois, la création d'organismes génétiquement modifiés, mais la création d'organismes génétiquement modifiés repose sur deux faits naturels majeurs, la quasi-universalité du code génétique et en second lieu, le fait qu'un gène codant pour les productions d'une protéine, si on le transfère à un autre organisme, continue à produire la dite protéine. Il existe trois voies pour créer des organismes génétiquement modifiés. 1. La fusion in vitro de deux noyaux, essentiellement dans le règne végétal. 2. La fusion de deux cellules sexuelles pour créer des organismes comme les mulets, les bardeaux, un mélange de zèbres et d'ânes aussi. Et troisièmement, l'introduction d'un ou de plusieurs gènes dans le noyau d'une cellule. Ces trois techniques sont employées par l'homme ou se produisent spontanément dans la nature, mais le caractère aléatoire des processus d'hybridation fait qu'on préfère le transfert de gènes plus précis. Le paradoxe de la situation actuelle en France est que les OGM sont plutôt bien acceptés en tant que médicaments et mal acceptés en tant qu'aliments. Comment expliquer ce contraste? Dans le cas des médicaments, on suppose que les essais sont rigoureusement conduits. De plus, même si la substance proposée a été produite par des moyens artificielle, elle est naturelle. L'insuline de synthèse présente toutes les propriétés de l'insuline fabriquée par les organismes de personnes non diabétiques. Les aliments présentent deux différences. Un, les plantes ou les animaux transgéniques ne sont pas tout à fait identiques aux plantes et aux animaux que l'on trouve dans la nature. Et deuxièmement, le public se demande si les recherches sur l'innocuité des plantes et des animaux transgéniques font l'objet de contrôles aussi stricts que dans le cas des médicaments. Voyons donc à présent l'agriculture et l'élevage traditionnels. La nature fabrique des OGM naturels que les hommes ont ensuite adapté à leurs besoins. Les plantes domestiques le plus souvent utilisées dans l'alimentation, le blé et le riz, résultent de la fusion et recombinaison de plusieurs génomes de plantes, voire de génomes de plantes et de bactéries. Les hybridations entre espèces végétales sont exploitées en agriculture depuis le milieu du XVIIIe siècle, depuis les travaux de Linné, et n'ont jamais suscité de crainte dans la population. Le terme d'hybridation a deux sens. Il désigne le croisement d'espèces distinctes ou, deuxièmement, le croisement de deux lignées de la même espèce, donc de variétés de la même espèce. Darwin s'est demandé si la nature, pour sélectionner les êtres vivants, n'utilisez pas des processus qui ressemblent à ceux qu'emploient les agriculteurs et les éleveurs. Il a inféré la notion de sélection naturelle d'observation touchant la sélection artificielle. En effet, la domestication des plantes et des animaux consiste à tirer parti de modifications génétiques ou mutations qui se produisent naturellement. On peut en conclure que les produits de l'agriculture et de l'élevage traditionnels sont des OGM naturels sélectionnés par l'homme depuis plusieurs milliers d'années. Voyons maintenant les âges de l'agriculture. Dans le chapitre 3 du rapport de l'Académie des sciences intitulé « Les plantes génétiquement modifiées » en 2002, Bernard Le Buanec, Georges Pelletier de l'Académie des sciences et Jean-Noël Pagès distinguent trois âges de l'agriculture. Dans un premier temps, les gains de productivité ont été insignifiants. Un grain de blé donne 3 grains de blé sous Jules César et 6 à la Révolution française. La découverte essentielle, faite à la fin du XVIIe siècle, mais qui ne porte ses fruits qu'à partir du XXe siècle, est celle de la reproduction sexuée des plantes. Elle permet d'hybrider des variétés et, par sélection artificielle, d'augmenter les rendements. Mais à partir de 1970, on entre dans un troisième âge de l'agriculture. Les rendements plafonnent et parallèlement apparaissent les premiers travaux sur les plantes transgéniques. En 1983, obtention des premières plantes transgéniques par 4 groupes qui travaillent indépendamment. L'Université de Washington à Saint-Louis, dans le Missouri, l'Université royale de Gand, la Société Monsanto à Saint-Louis, dans le Missouri, et l'Université du Wisconsin. Cette évolution de l'agriculture a répondu à plusieurs besoins. Les plantes utiles sont attaquées par des insectes, des microbes, des virus, étouffés par des adventices et doivent ainsi résister à un environnement hostile. Climat extrême, terre pauvre, sèche, aride, acide, etc. Pour les aider à survivre et à conserver leur potentiel de production, l'homme dispose de 4 stratégies complémentaires. 1. Éliminer leurs agresseurs par des moyens chimiques. 2. Doter les plantes de moyens de tuer elles-mêmes leurs agresseurs en les munissant d'un gène qui produit une protéine qui détruit l'agresseur. 3. Doter les plantes de gènes qui leur permettent de tolérer les pathogènes. 4. Modifier leur génome pour qu'elles s'adaptent à un environnement difficile. Il se pose donc une question, est-ce que les procédés qu'emploient les scientifiques pour créer des OGM sont très différents des procédés qu'emploie la nature pour modifier les organismes? En 2008, la liste des plantes modifiables par transgénèse était déjà longue. Il y avait l'arabidopsis, la betterave, le blé, la chicorée, la canne à sucre, le colza, le coton, la courgette, la laitue, le maïs, le melon, le peuplier, les pommes de terre, le riz, le rosier, le soja, le tabac, la tomate, le tournesol, la vigne. La création d'organismes génétiquement modifiés qui s'insèrent bien dans leur environnement et soient stables ne serait pas possible si leur fabrication violait les lois de la nature. Leur existence témoigne qu'ils sont d'une certaine façon naturels. Si l'utilisation dans l'agriculture et l'élevage d'organismes génétiquement modifiés à la suite de mutations naturelles ne pose pas de problème, alors que la création artificielle d'organismes génétiquement modifiés fait difficulté, en Europe du moins, c'est que l'on suppose que ce que fait la nature est bon, alors que ce que fait l'homme ne l'est pas nécessairement. En 2003, l'Académie de médecine a publié un rapport sur les OGM alimentaires et thérapeutiques. Elle note « Les OGM sont récents, il n'est pas possible de dire a priori si leur consommation par les animaux domestiques et par l'homme présente ou non des risques, seule l'expérience peut le dire ». On ne peut pas lancer des affirmations générales. Tous les OGM sont dangereux ou tous les OGM sont sains, d'où la nécessité de recherches agronomiques et médicales. Il faut procéder au cas par cas, s'informer des résultats obtenus dans les laboratoires en France et à l'étranger et respecter des processus, des protocoles internationaux. Quels sont les risques des OGM et pourquoi font-ils peur? Le Codex Alimentarius de 2002 ne signale aucun risque alimentaire et l'Académie de médecine confirme cette conclusion. Depuis 10 ans, des centaines de millions de personnes ont consommé des OGM sans qu'aucun trouble pathologique ait été signalé. Et notre confrère Jean-David Lévite, que je me permets de citer, qui a représenté notre pays aux Nations Unies puis aux États-Unis dans des conditions difficiles, confirme que quand un aliment, fût-il obtenu par transgénèse, a été déclaré sain par la Food and Drug Administration, FDA, on le consomme en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas chez nous. Pourtant, comme les plantes naturelles, les plantes transgéniques sont susceptibles de provoquer des allergies. On ne sait pas encore si les risques d'allergies naturelles sont augmentés par les organismes transgéniques ou non. Les risques pour l'environnement sont de trois ordres. La dissémination d'un flux de gènes de plantes transgéniques à des plantes non transgéniques. Deuxièmement, le développement de plantes envahissantes. Et troisièmement, la modification de la faune. Ce problème se pose parce que les OGM alimentaires et thérapeutiques ne peuvent pas toujours être produits en milieu confiné. Je voudrais indiquer quelles sont les raisons pour lesquelles on a utilisé des OGM. La raison scientifique de faire des recherches sur les OGM est évidente. C'est un moyen puissant de mieux connaître l'histoire de la nature et de découvrir les processus qu'elle emploie pour faire évoluer les espèces. Les raisons pratiques concernent la médecine, qui utilise de plus en plus des OGM comme usine biologique destinée à fabriquer des médicaments, et l'agriculture, à savoir l'alimentation, l'industrie et l'environnement. En 2008, on pensait que la population mondiale augmenterait de 2 milliards au cours des 40 prochaines années, d'où le souci d'adapter les plantes alimentaires à des milieux hostiles et de voir dans quelle mesure le recours aux OGM permettrait d'augmenter la production et, nous l'avons signalé, de pallier certaines carences alimentaires. Actuellement, deux sortes de plantes transgéniques sont développées, celles qui résistent aux insectes et celles qui résistent aux herbicides. Mais bien d'autres possibilités existent. Rendre les plantes résistantes aux maladies, à la sécheresse, au froid, modifier les acides gras des huiles, agir sur la composition des acides aminés, la nature des glucides, etc. Je voudrais indiquer quelques données statistiques. En 2008, les surfaces occupées par les plantes transgéniques dans le monde représentaient de l'ordre de 1,2 million de kilomètres carrés, soit la superficie de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Mais pourquoi ces peurs et ces désirs concernant les OGM? En 1885, Marcellin Berthelot, dans Les origines de l'alchimie, observait que la chimie n'aurait pas fait autant de progrès si elle n'avait été soutenue par le désir qu'ont les hommes d'obtenir un élixir de longue vie. En revanche, dès l'Antiquité, on observe que les hommes devraient être guéris, voudraient être guéris sans souffrir. Platon remarque que nous attendons des médecins et des politiques qu'ils améliorent notre état sans nous faire souffrir. Et Platon déclare dans les lois 3684C que c'est impossible. Mais cela explique que dans la condition humaine, désir et peur soient intimement liés et que le mot grec pharmakon désigne à la fois le remède et le poison. Est-ce que les peurs de l'espèce humaine sont fondées sur des raisons objectives? Je crois qu'on peut répondre oui. La souffrance, la maladie, la mort, les épidémies, les guerres, la violence de la nature et des hommes font partie de l'expérience ordinaire. Devant les risques que génère la peur de l'humanité, l'humanité a mis en œuvre deux stratégies, la fuite et l'affrontement. Quand les dangers sont inévitables, la stratégie la plus sûre est probablement l'affrontement, qui commence par une évaluation objective des dangers. La peur ne disparaît pas, mais au lieu de porter sur des objets confus, elle se circonscrit à des risques mieux délimités. À l'heure actuelle en France, nous sommes dans une position ambivalente à l'égard des OGM. Ils font l'objet de peurs confuses et les responsables du monde politique, économique et social peinent à transformer ces peurs confuses en un système d'avantages et de risques convenablement évalué et donc à un certain degré mesurable. D'où vient cette peur des OGM ? Elle a un premier fondement raisonnable. Comme Darwin l'a souligné, il y a lutte entre les espèces et à l'intérieur de chaque espèce, concurrence entre les variétés, voire entre les individus. Dans ce contexte, notre espèce se sent menacée et de fait, elle a subi au cours de son histoire des crises dramatiques, comme la peste d'Athènes décrite par Thucydide ou la grippe espagnole de 1918-1919 qui a fait plus de morts, semble-t-il, que la Première Guerre mondiale. Or, on redoute que la grippe qui, à l'heure actuelle, atteint les oiseaux migrateurs franchisse massivement la barrière d'espèces, auquel cas, en 2008, on pensait qu'il pourrait y avoir des dizaines de millions de morts. De même, la maladie dite de la vache folle s'est transmise à l'homme sous la forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bref, les hommes redoutent que des maladies propres à des espèces proches se transmettent à lui. C'est la raison pour laquelle on utilise plus volontiers comme médicament des plantes transgéniques que des animaux transgéniques, parce que l'on n'a pas observé de franchissement de la barrière d'espèces par des virus abrités par les végétaux. Quand on mange un aliment génétiquement modifié, le transgène n'est pas dangereux, car l'ADN est décomposé par la digestion en des constituants qui sont naturels puisque le code génétique est quasi universel. Les risques connus concernent la protéine produite qui peut être toxique ou provoquer des allergies. Les examens classiques permettent de savoir, du moins c'est ce qu'on pensait en 2008, si tel OGM présente de tels risques. Mais les avantages connus des OGM ne sont peut-être pas aussi évidents aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2008. Que s'est-il passé pendant les 10 années qui viennent de s'écouler ? Lucien, ce sera ma conclusion. Lucien Lévy-Brull, qui en 1920 contribua à faire connaître en France l'art africain, publia en 1922 « La mentalité primitive ». Le titre du livre amena certains commentateurs à l'interpréter comme une opposition entre la rationalité occidentale et la mentalité primitive propre à des peuples colonisés. Or, la thèse de Lévi-Brulle est bien différente. Tous les hommes, selon lui, quel que soit leur lieu de naissance, la couleur de leur peau, leur religion, leur culture, tentent de comprendre le monde et de se comprendre eux-mêmes par le biais de mythes et de rites. Sortir d'un tel état est une aventure risquée et la rationalité une victoire fragile. Nous peinons à nous extraire du monde des mythes, nous en subissons l'envoûtement, surtout quand il alimente nos peurs. En effet, écrit Lévi-Brulle, le réseau des causes secondes, qui pour nous, c'est-à-dire quand nous pensons scientifiquement, s'étend à l'infini, y reste dans l'ombre et inaperçu, tandis que des pouvoirs occultes, des actions mystiques, des participations de toutes sortes s'y mêlent aux données immédiates de la perception pour constituer un ensemble où le réel et l'au-delà sont confondus. Il n'est donc pas surprenant que l'opinion publique soit sujette à des emballements, à des erreurs et à des entêtements opiniâtres. Bien plus, nous sommes enclins à croire, comme Rousseau, que l'homme dégrade la nature. Il déclare, dans Émile ou de l'Éducation, « Tout est bon sortant de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme, il bouleverse tout, il défigure tout, il aime la difformité, les monstres, il ne veut rien que telle que la nature l'a fait, pas même l'homme. L'attitude française à l'égard des OGM exprime des craintes dont une partie de l'humanité paraît exempte. Les adversaires des OGM raisonnent ainsi. La science prométhéenne fait courir un danger à l'humanité. Par chance, des gardiens vigilants de la cité, parmi lesquels se trouvent des scientifiques non corrompus, peuvent rompre le sortilège et dompter les monstres et leurs séides, Monsanto et les pro-OGM, en détruisant leurs essais en plein champ qui infestent la nature et y répandent des plantes maléfiques. Les actions violentes sont justifiées, car la planète ne sera sauvée qu'à ce prix. D'où la question, comment la France, qui dans certains domaines de la science tient son rang, peut-elle dans le secteur des biotechnologies, de la transgénèse en particulier, sortir de ses peurs obscures pour accéder à une attitude fondée sur l'analyse rationnelle des avantages et des risques. Cette opération est malaisée car, observe Lévi-Brulle, à propos de la rationalité, faire confiance aux données de l'expérience et aux résultats bien établis de la science ne va pas de soi. Pour rester fidèle à la raison, sans faiblir, il faut surveiller jusqu'à ses moindres démarches et se faire constamment une sorte de violence. Avec l'apparition des réseaux sociaux, l'opinion publique a, nous l'avons vu, changé de nature, les opinions tranchées, mais aussi les émotions ont trouvé l'occasion de s'exprimer. En outre, sur le plan scientifique, plusieurs changements sont intervenus entre 2008 et 2018. L'ingestion d'OGM modifie la composition de la flore intestinale. Or, notre microbiote influence le devenir de notre être. En 2018, l'Académie des sciences et l'Académie de médecine n'auraient probablement pas été aussi affirmatives à propos de l'innocuité alimentaire des OGM qu'il y a 15 ans. Deuxièmement, les affirmations péremptoires du Codex Alimentarius sur la nourriture ou les remarques trop tranchées sur la thérapeutique ont cédé la place à des considérations plus nuancées. car on ne connaît aujourd'hui, semble-t-il, que 5% de la génétique humaine. Troisièmement, la découverte de la technique CRISPR-Cas9, qui permet de couper avec précision le génome à un coût raisonnable, a modifié profondément la situation des biotechnologies. On peut créer plus rapidement que par les techniques classiques des variétés nouvelles de plantes, d'animaux, voire de bactéries, et on peut, peut-être par quelques dérives qu'on admettrait peut-être pas très bien, on peut aussi réaliser des opérations de transgénèse. Toutefois, les changements scientifiques et techniques que nous venons de mentionner signifient qu'il faudra du temps pour connaître avec précision le rôle et l'influence des OGM sur le destin de l'humanité. Je vous remercie. Thank you.